Vous écoutez France Musique.
Merci beaucoup Thierry Bovert, passez un très bon dimanche soir et à la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Amis du Parti d'Anjou, bonsoir à vous, bienvenue dans votre repère dominical nocturne où la jeunesse embrasse et caresse la nuit de ses confidences. Ingirum imus nocte et consum imur igni. Nous errons dans la nuit et sommes dévorés par le feu. Un feu qui, entre 20 et 30 ans, ressemble à une sorte de nébuleuse qui parfois éblouit. Insolence du talent, fougue incandescente. Les jeunes musiciens sont ici chez eux pour nous parler d'eux. Et surtout pour nous parler de leur imaginaire. Car cette jeunesse souvent précoce rime très vite aujourd'hui avec carrière professionnelle. Et pourtant, dans cet entre-deux de plus en plus étroit, des questions demeurent. Ce soir, je suis ravi d'accueillir un altiste qui a déjà fait beaucoup parler de lui, Adrien Boisseau. Bienvenue dans sa partie du jeu, ou dit autrement, dans son parti d'en jouer.
She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. She's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. I love you more than he.
Take you anywhere.
But I love you endlessly.
Bienvenue à vous, Adrien Boisseau, bonsoir.
Bonsoir, Edouard.
Comment ça va?
Ben, ça va pas mal, surtout quand on entend ça.
Ah bah oui, The Girl Is Mine, ça vous est déjà arrivé de vous battre pour une fille?
Oh là là, c'est un sujet compliqué. Enfin, de mon côté, non, ça m'est jamais arrivé. Mais bon, ça peut arriver qu'on soit deux sur une nana. Et puis après, c'est celui qui est le plus motivé, j'ai envie de dire.
Là donc en l'occurrence entre Michael Jackson et Paul McCartney, peut-être que la bataille n'est pas complètement loyale. Mais qu'est-ce qui vaut le coup de se battre dans la vie?
Eh bien,
en musique.
En musique, bah, il faut se battre pour ses émotions, pour ce qu'on ressent, pour partager quelque chose en tout cas avec le public. Et puis non, je pense qu'il faut prendre du plaisir avant tout.
Et qu'est-ce qui vous paraît futile chez un musicien? Pas dans la musique, hein, mais qu'est-ce qui vous paraît futile chez un musicien? Vous vous dites, mais en fait, on s'accroche à des choses qui ne sont pas vraiment si importantes que ça.
Je sais pas, je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus.
Pas le dimanche soir en tout cas, à 21h. Et des blagues d'altistes, vous en connaissez?
Oui, enfin, en même temps, je ne suis pas vraiment, dans ce mode-là. J'ai un petit peu boycotté les blagues d'altistes. Je suis d'une génération de renouveau, de l'alto. Bah oui. Enfin, j'en ai connu.
Bah c'est pas. Il y a les blagues sur les altistes, et puis il y a les blagues d'altistes. Il y a celles dont parle, enfin qu'évoque souvent, par exemple Yuri Bachmet, qu'on va écouter tout de suite pour ouvrir votre partie d'en jouer, qui est pourquoi les blagues sur les altistes sont-elles toujours courtes?
Je sais pas.
Bah, c'est tout simplement pour que les violonistes ne les oublient pas.
D'accord. Ah, je voilà. Connaissais pas. C'est pas mal ça.
Et vous, vous en connaissez d'autres?
Pour une riposte
de blagues.
En répétition. Bah oui, il y a celle de la pute.
C'est quoi?
C'est quelle est la différence entre une pute et un altiste? C'est que au moins elle connaît ses positions.
D'accord. Eh ben bienvenue dans votre partie d'enjouer, Adrien Boisseau, et on ouvre avec justement un maître, un de vos maîtres, aujourd'hui en tout cas la Cronberg Academy, Youri Bashmet dans la sonate pour alto de Glinka. Le début, le premier mouvement de la sonate pour alto et piano de Glinka par Youri Bashmet et Mikhail Muntian au piano en ré mineur. Nous sommes avec vous, Adrien Boisseau, dans votre partie d'enjouer. Et c'est vrai que Youri Bashmet, bon, c'est le grand maître, un des grands maîtres que vous avez aujourd'hui à la Cronberg Academy. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que cette académie ?
Oui, tout d'abord, c'est... oui, je l'ai... Enfin, bon, il n'est pas souvent là. c'est pas mon professeur régulier. Je pense qu'il est bien trop occupé pour être professeur régulier. Mais la Cronberg Academy, en gros, c'est une école privée à côté de Francfort, en Allemagne, avec un petit peu ce qui se fait de mieux au niveau actuel, au niveau des professeurs. Et voilà, c'est une école avec des petits effectifs. On doit être, je crois, 17 éléments. Et c'est vraiment du cas par cas. Donc on est vraiment... voilà, on s'occupe très très bien de nous.
Et c'est-à-dire que c'est, vous y allez tous les jours
Non. J'habite à Berlin. Pour des raisons personnelles, je préfère habiter à Berlin. Et à côté de ça, je vais à Cronberg deux fois par mois.
Parce que les petites villes de province, vous connaissez, puisque à quel âge vous êtes parti à Salzbourg à 18 ans?
Et puis d'abord, j'ai grandi à Nevers, cette petite moyenne bourgade bourguignonne.
En venant précédemment quand même d'une île, alors ça parlera peut-être aux franciliens, qui s'appelle l'île aux loups, qui est près de Nogent-sur-Marne.
L'île des loups, oui.
L'île des loups.
Oui, c'est vrai que j'ai grandi au tout début, les 4 premières années de ma vie, sur l'île des loups.
Donc ça veut dire que vous alliez en école en barque.
Voilà, un rapport à l'élément aquatique, déjà, ça a dû influencer mon subconscient.
Et aux moustiques
de musicien.
Les moustiques l'été, non ?
Les moustiques, j'ai pas de souvenirs. C'est vrai que j'ai assez peu de souvenirs, d'ailleurs.
Parce que celles et ceux qui ont fait de l'aviron du côté de Joinville et de Nogent...
Justement, mes parents se sont rencontrés dans un club d'aviron.
Et vous en avez fait, vous, de l'aviron ?
Moi, j'ai essayé une ou deux fois. C'est pas évident. C'est pas évident de trouver l'équilibre et de bien synchroniser ses coups de pagaie. Mais mes parents étaient des grands fanatiques. Ouais.
Alors l'équilibre, c'est important parce que c'est vrai qu'en revenant sur Youri Bashmet, il y aurait pas mal de choses à dire, quand même grand, grand maître. Ça a été votre première émotion musicale de son d'alto.
Ouais.
Et c'est vrai quand même qu'en écoutant cela, je repense à des choses qu'il dit assez souvent, hein, qu'il répète sur ce positionnement de l'alto qui a des incidences sur l'interprétation. L'alto, c'est pas quelque chose qui est entre le violon et le violoncelle, c'est le côté un peu, bon, c'est une impasse de réflexion. Il dit non, c'est l'alto qui est au centre et ce sont les autres instruments qui sont autour.
Ah oui,
alors
oui,
c'est
oui.
Juste, voilà, c'est un peu copernicien dans la manière de penser.
Qui rayonne
voilà.
Au centre.
Et est-ce que ça, justement, ça a des incidences sur la manière dont on aborde l'instrument lui-même?
Mais j'ai envie de dire, surtout au niveau de la musique de chambre, c'est intéressant comme réflexion, parce que j'ai souvent eu l'impression qu'on pouvait quand même sans avoir le thème, par les éléments internes de la musique, de l'accompagnement par exemple, qu'on pouvait vraiment nourrir le jeu de ses collègues, et qu'il y a une manière de les guider, une manière de communiquer une énergie par le centre du groupe, effectivement. C'est une place que j'aime beaucoup dans un groupe de musique de chambre, en tout cas.
Thank you.
Le quolibet est l'aria finale des variations Goldberg, Murray Peraya. Avec vous, Adrien Boisseau, dans votre partie d'enjoué, vous avez 23 ans, c'est ça ?
Pas encore,
22 ans, c'est
important. 22.
22 ans, vous jouez de l'alto, et c'est vrai qu'on parlait de Youri Bashmet, première grande émotion musicale du son de l'alto, et c'est aussi Youri Bashmet qui revenait un peu comme vous sur la dimension harmonique. Et j'aime beaucoup même cette idée que ça change beaucoup aussi dans le rapport à l'instrument, le fait d'avoir cette sensation de ne pas forcément être tout le temps au-dessus, de devoir diriger par le haut, par un langage ostentatoire, voilà, le côté un peu premier violon, mais de diriger autrement, et même peut-être parfois un peu plus que
Oui, effectivement.
Bashmet disait justement que, en revenant à Bach, que Bach, quand il jouait de l'alto, il jouait à peu près tout, avait vraiment ce sentiment de l'harmonie.
C'est vrai qu'on dit souvent que... Bach jouait de l'alto, ou bon, c'était, je sais pas sous quelle forme c'était à l'époque, que Mozart, enfin on sait que Mozart, Beethoven jouaient de l'alto, il y en a eu d'autres, il y avait Dvorak. Donc oui, je pense que c'est un instrument où on est vraiment au centre des choses à tout point de vue. Il y a aussi, bon, il faut être honnête, une difficulté technique souvent moins grande que pour les parties de violon, de piano par exemple. Donc on a plus de disponibilité d'écoute, et c'est vrai qu'on est dans ces choses qui font que la musique est spéciale. Enfin, on sait tous qu'un beau thème sans un accompagnement spécial, il est gâché. Donc voilà, c'est ça qui fait la joie de l'altiste.
Mais alors le choix d'un instrument, la joie, le choix d'un instrument comme l'alto, ça s'est fait quand pour vous ?
J'ai commencé à 5 ans. Mais c'est vrai que j'en discutais avec ma mère là, il y a deux jours, j'étais chez mes parents. Alors moi, il me semblait que j'avais entendu l'alto, parce que le professeur local à Nevers faisait des interventions dans les écoles. Mais elle me dit que non. Donc apparemment, c'est simplement...
Ah, c'est sur d'avoir des souvenirs qu'on n'a pas forcément existé ou
déformés. Oui, on compare les souvenirs. Mais en tout cas, non, je savais quand même ce que c'était, mais c'était vraiment sur la proposition de ma maman. Et puis, non, moi, je me souviens du moment où j'ai été m'inscrire. Tout ça, c'était quand même assez inconnu pour moi, comme univers. J'écoutais de la musique, on écoutait de la musique à la maison, mais c'est pas comme si j'avais eu un désir foudroyant de faire de l'alto. Ça s'est fait comme ça, et ça m'a très vite... bien convenu, parce que c'est vrai que, bon, comme je disais, je suis d'une génération où on a commencé à jouer maintenant directement de l'alto, à ne plus passer d'abord par le violon, et aussi une génération où maintenant, tout le monde a une technique formidable, enfin pas tout le monde, mais il y a vraiment un niveau qui s'est élevé considérablement, et donc c'est... voilà, c'est assez agréable quand on a des retours du type « Ah, pour un altiste, tu joues bien, mais dis donc, on dirait un violoniste. » C'est-à-dire, dès qu'on a un petit peu un bagage, on est très vite récompensé. Alors que dans la cour des violonistes, il y a un tel historique des grands violonistes et un tel niveau depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il faut se battre encore plus pour être reconnu. Mais je sais pas.
Mais c'est vrai que l'époque des blagues d'altistes ou sur les altistes me paraît être extrêmement loin. C'est-à-dire que dans le temps, c'est très ramassé. C'était quelque chose aussi très courant il y a 10 ans et ça l'est beaucoup moins alors qu'on parle juste d'une décennie. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce sentiment de l'harmonie, parce que vous êtes pianiste aussi en fait, au départ vous en avez fait beaucoup. Les variations Goldberg, c'est quelque chose que vous jouez aussi assez souvent pour vous remettre dans le texte, dans la partition.
Dans le bain.
Exactement, dans le bain. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de la compréhension d'une œuvre. C'est-à-dire que ce que vous dites, Adrien Boisseau, sur la disponibilité de l'écoute, fait aussi que un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre pour pas mal de grands compositeurs, ou même comme Pierre Boulez qui disait un chef-d'œuvre, c'est un peu comme un hologramme. C'est-à-dire que de n'importe quel point de vue dont on l'entend, que ce soit dans un orchestre du point de vue... de l'alto, du violon, tout ça, ça restera toujours un chef-d'œuvre.
Ouais.
Et c'est ça qui est d'ailleurs assez vertigineux, c'est-à-dire que dans une œuvre, personne ne l'entend de la même manière.
Ouais.
Et cela, cette passerelle entre sens de l'écoute, harmonie et compréhension, pour vous, ça rime, on va y revenir, avec la 5e symphonie de Tchaïkovski.
Mmh.
1960, version mythique de cette 5e symphonie de Tchaïkovski avec l'Orchestre Philharmonique de Leningrad.
C'est beau ça, hein ?
Waouh ! Bravinsky à la baguette, et c'est l'Allegro, hein, juste après le début du premier mouvement,
l'Andante. Ça fait toujours du bien d'entendre un bon Tchaïkovski.
Est-ce que les frissons de l'orchestre que vous avez ressentis, Adrien Boisseau, sont les mêmes que ceux que vous ressentez en musique de chambre ?
Oui, enfin, pas exactement, justement. Et c'est drôle parce qu'en écoutant, là, en même temps que vous, ce mouvement de la cinquième de Tchaïkovski, j'ai retrouvé ces frissons que j'avais connus en la jouant quand j'étais stagiaire à l'Orchestre Philharmonique à Radio France, pendant ma scolarité au Conservatoire de Paris. Et je me souviens encore de ces frissons, justement, dans les premiers tutti, voilà, fortissimo, dans le premier mouvement. Et cette joie de jouer tous ensemble, d'unir sa sonorité à 80 autres musiciens. Et là, je la ressens de la même manière.
Est-ce qu'on s'entend quand on joue en orchestre ?
En écoutant.
L'écoute qu'on a de son propre instrument, pas forcément. Parce que la question de l'écoute que vous évoquiez en tout début de partie d'en jouer, elle pourrait se poser là, dans un contexte un petit peu différent, qui est celle de l'orchestre et de son rapport au son qui sort de son instrument.
J'ai envie de dire que si ça se passe bien, si on est dans une belle formation et où il y a une belle entente avec ses collègues du pupitre, j'ai envie de dire que c'est mieux qu'on ne s'entende pas, en fait. Enfin, qu'on ait perdu la notion de sonorité personnelle.
Et disparaître dans le son collectif.
De se fondre dans la sonorité collective, ouais. Après, il y a toujours des repères qu'il ne faut pas perdre de technique. On se rattache quand même à son bagage technique de jeu. Mais dans mes plus belles expériences de musicien d'orchestre, enfin, dans un orchestre, quand c'était vraiment époustouflant et réussi, quand je m'oubliais complètement.
Alors c'est vrai que Adrien Boisseau, bon, on n'est pas forcément là dans le parti d'en jouer, on évite généralement de faire le CV de tout ce que vous avez gagné comme concours, que ce soit l'International Classic Music Award, le prix à Berlin de ce concours Max Rostal aussi. Vous avez joué à la Philharmonie de Berlin, etc. Bon, il y a beaucoup de choses. On met ça de côté quand même, mais sur cette idée de technique, quand on joue en concert, est-ce que parfois, et vous me répondez en toute honnêteté, on oublie cette technique ?
Comme toujours.
Ou est-ce qu'elle est toujours omniprésente ? Est-ce qu'elle est quand même toujours ce filtre qui permet de, parfois aussi, de se transcender ? Mais cette technique, est-ce qu'elle vous accompagne, même dans les moments où il se passe quelque chose en concert ?
Bah justement, j'ai quelque chose que m'a dit une fois Tabea Timmerman, je sais qu'on va l'écouter un peu plus tard, qui m'a bien éclairé sur une direction à prendre dans la perception qu'on a de son jeu pendant un concert. Et en fait, c'est une manière de n'oublier aucun paramètre. C'était cette image de la partition d'orchestre. Donc ça fait le lien aussi avec le chef d'orchestre, avec l'orchestre. C'est-à-dire que si on veut jouer au mieux et réussir à mélanger au mieux tous les paramètres quand on est sur scène, il faut imaginer que chaque ligne, comme chaque ligne du conducteur d'orchestre, chaque voix, c'est un paramètre. Donc ça peut être à la fois le paramètre de l'émotion dans l'instant. Ça peut être la projection du son, ça peut être l'acoustique, faire attention à bien être entendu au fond de la salle. Ça peut être ensemble avec son pianiste. C'est toutes ces petites choses, et l'objectif, c'est de balayer et de ne, si possible, de ne rien oublier. Mais c'est vrai que pour répondre maintenant en toute honnêteté, les concerts que je préfère, c'est ceux où j'oublie complètement la technique.
Et ça dépend de l'humeur que vous avez.
Je me fixe complètement sur mon ressenti. Et j'en ai plus rien à faire comment ça sort, en fait.
Mais justement, vous parliez de Tabea Timmerman. On va l'écouter ici, dans une romance au départ écrite pour hautbois, une des trois romances, opus 94, de Robert Schumann. Thank you. La deuxième des trois romances, opus 94 de Robert Schumann, au départ pour hautbois, interprétée ici par Tabea Zimmermann, avec Armut Hull au piano. Alors c'est vrai que Adrien Boisseau, vous êtes avec nous dans le parti d'en jouer, vous êtes altiste, vous avez bientôt 23 ans, 22 ans, et vous avez beaucoup étudié avec Tabea Zimmermann à Berlin. Alors votre parcours, c'est vrai qu'avant cela, il y avait Salzbourg, avec Veronika Hagen, je crois.
Oui, il y a eu un an avec Veronika Hagen. Ça partait d'un coup de foudre. J'avais découvert les enregistrements du quatuor Hagen et j'avais été époustouflé par son jeu vraiment brillant et à la fois aussi très solistique et que j'avais rarement entendu venant d'un altiste ou d'une altiste de quatuor. Donc ça, ça m'avait vraiment, ça m'avait vraiment impressionné.
Alors cette dimension justement solistique, parce que je sais que quand on en parlait de Tabea Zimmermann, vous me disiez il y a vraiment toujours cette harmonie, vous en parliez de tous les points, ouais. Mais en gros pour être très binaire, entre le cérébral et puis le sensible.
Mais en fait, ça,
mais dédié
non,
à la scène.
Ça va un petit peu plus loin, c'est une question de positionnement artistique, et je ne dis pas que je suis arrivé au bout de cette réflexion, loin de là, mais... La question, c'est à partir de quel moment on considère qu'il faut rester dans le contrôle, à partir de quel moment faire une fausse note parce qu'on a débordé de ressenti à un moment, c'est grave ou pas. Quels sont les critères à partir desquels on juge un concert qu'on entend ou sa propre interprétation. Moi, dans mon expérience encore très jeune et récente, j'en viens à me dire de plus en plus que bon, peut-être une fausse note ou même quelque chose qui n'est pas ensemble, c'est-à-dire des imperfections, si ça découle d'un ressenti qui a été très fort et où à un moment on a été pris de faiblesse parce que la musique était trop forte, j'ai tendance à penser que c'est pas très grave. En tout cas, j'essaye d'aller dans une direction vraiment de plus en plus expressive et sur le moment, en tout cas de l'instant musical sur scène.
Bon, on se dit que c'est un peu tout le travail quand même d'un professeur, c'est d'arriver à libérer aussi son élève de sa technique, mais par le biais des sentiments, de la subjectivité, ouais. De ce qu'il est vraiment.
Oui. Après, c'est le rôle d'un professeur, c'est aussi de donner un bagage technique qui permet à son élève de, quoi qu'il arrive, quelles que soient ses découvertes musicales, son parcours et sa rencontre, il puisse rester quand même sur une base solide. C'est-à-dire qu'il y a un socle vraiment sur lequel on peut se reposer, je trouve.
C'est une sorte de bleu, kind of blue, blue in green en l'occurrence, le bleu dans le vert Miles Davis. Alors ça, Adrien Boisseau, c'est une musique qui accompagne toute votre adolescence, mais même votre vie. Lycée Brassens, à côté du CNSM, classe à horaires aménagés.
Oui.
Et puis c'est vrai qu'en fait, en écoutant cette musique très importante pour vous, je trouve qu'il y a, il y a énormément de parallèles avec l'alto en fait.
Ah oui.
Sur la posture, sur la recherche du son, sur la manière de colorer le son, d'avoir cette palette du milieu et de cette ouverture aux autres beaucoup plus intéressante que quand on est tout là-haut.
Mais là-haut. C'est vrai que, bon, en tout cas, moi je trouve que Miles Davis, il a vraiment un phrasé incroyable et très classe aussi, très peu de vibrato. Et cet art de finir un petit peu les notes comme ça, mais un sens du timing aussi. Enfin, je sais que moi, j'ai toujours ce sentiment très particulier quand je l'écoute.
Alors justement, cette question des couleurs, quel est l'enseignement principal de l'alto? Parce que on parlait du son de Yuri Bashmet, par exemple. Pour des auditeurs qui ne sauraient pas forcément justement comment ça se joue l'alto et qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est son étendue expressive?
Bon, on peut tout faire avec un alto. Moi, j'ai tendance à dire que de toute façon, un alto, c'est comme un violon. C'est juste une quinte plus grave, et voilà, c'est tout. C'est ce que me disait, j'ai pas toujours eu cette opinion vraiment, c'est ce que me disait une fois mon professeur au Conservatoire de Paris, Jean Sulem, qui lui avait commencé par le violon, et puis après il a fait de l'alto finalement, mais il m'a soutenu pendant très longtemps dans cette conversation, voilà, que c'était exactement la même chose. C'est-à-dire, parce que pour moi, c'était pas aussi évident, parce que je n'avais jamais fait de violon. Mais bon, depuis, j'ai essayé, j'ai pris quelques violons. Effectivement, c'est la même chose, c'est juste un petit peu plus petit. Et c'est la même différence que, entre un sax alto ou un sax ténor. Les saxophonistes ne se cantonnent pas à un type de saxophone. Donc tout ça pour dire que... Enfin, moi, je parlerais plutôt du rôle qui a été jusque-là celui de l'alto dans le répertoire.
Mmh.
C'est vrai que ça, c'est un rôle assez particulier, comme on disait, au sein des choses. Mais il faut aussi, c'est ça qui est difficile, savoir ressortir dans un beau solo. Et il y a cette couleur aussi qui a été, et qui s'est développée assez récemment. Cette couleur de l'alto, qui dépend un petit peu aussi des pays. L'alto allemand est un peu plus robuste que l'alto français. Donc ça, c'est des choses c'est historique après.
Mmh.
Ensuite, ce qui est important, je trouve, c'est de trouver son propre son. C'est ça qui est assez difficile, parce qu'on peut évidemment écouter Bashmet, Tabea Zimmerman, Kim Kashkashian, pour ne citer qu'eux, et essayer de faire comme eux, c'est magnifique. Mais ce que je trouve plus important, c'est de trouver sa propre voix. Et c'est ce qu'avait réussi à faire Miles Davis, avec ce son atypique.
Est-ce que vous avez l'impression parfois que votre adolescence a ressemblé à une vie d'ermite? Je vous dis ça parce que la question des stages, c'est vrai qu'on en parle rarement, de la question des stages, mais
non,
c'est une explosion de travail et puis aussi d'hystérie tout simplement humaine, quoi.
Mmh, oui, alors les stages, c'était des grands moments de découverte de moi-même, de mes premières grandes amitiés aussi liées avec des gens de mon âge. Parce qu'avant, j'étais plutôt avec des gens vraiment plus âgés. Et les copines, le plaisir d'être ensemble, de faire de la musique ensemble. C'est bon, la musique toujours comme noyau dur. Mais bon, je ne dirais pas que c'était une vie d'ermite. J'ai toujours été très bien entouré. Je ne me suis jamais senti seul. Et j'ai toujours eu besoin, de toute façon, par la musique, d'être avec des gens. J'ai beaucoup de mal à faire de la musique seul. Je trouve que c'est quelque chose qui se partage.
It'll be an F for you. Yesterday. I'm in G, but it'll be an F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Mm-hmm. Paul McCartney, bien sûr, au chant et à la guitare. Tout seul, comme s'il était dans sa chambre d'adolescent.
C'est drôle, je ne connaissais pas
version de 1965 où il explique un peu les accords. Et c'est intéressant parce que par rapport à ce que vous disiez des stages, on pourrait en parler des heures, parce que je pense que des histoires humaines, il y a un côté un peu initiatique dans le stage aussi, apprentissage de l'amitié, de l'amour, et puis de son propre instrument et du fait de jouer ensemble. Et c'est là vraiment où, je sais pas, quand on en fait, on peut se dire, j'y passerai bien ma vie, quoi.
Ouais.
En tant qu'élève ou en tant que prof.
C'est toujours très dur, les fins de stage.
Ah oui.
L'été, quand on a passé deux semaines en immersion totale, tous ensemble, il y a des séparations très douloureuses.
Et c'est vrai que l'histoire de la chanson Yesterday de Paul McCartney, c'est aussi une histoire qui est intéressante parce qu'on parlait de chambre d'adolescent, mais c'est une chambre d'hôtel. Je crois qu'il a composé cette chanson en se réveillant un matin et en ayant cette chanson qui lui avait tourné dans la tête. Et en la jouant, il s'est dit, mais est-ce que j'ai rêvé cette chanson ou est-ce que je viens de la composer sur le moment d'où elle vient ?
C'est
drôle. Et à tel point qu'il y avait vraiment une ambiguïté entre la fiction et la réalité, puisque McCartney dira, mais j'ai cru que cette chanson avait déjà été composée par quelqu'un d'autre.
Oui, et d'ailleurs, je crois qu'il a cherché pendant des mois.
Voilà, à savoir d'où elle venait,
en considérant que s'il avait déjà entendu.
C'était en tout cas quelque chose, une musique onirique qui venait des rêves et qui lui laissait penser que ce n'était pas forcément de sa composition. Est-ce que vous, ça vous arrive, Adrien, de prendre vos rêves pour des réalités?
Bah, en tout cas, ça m'est déjà arrivé de rêver des symphonies ou de rêver des morceaux, enfin, d'avoir des rêves auditifs. Et alors, je ne sais pas parce que je ne me souviens plus après au réveil. Enfin, je me souviens d'avoir eu cette expérience, mais je n'ai jamais réussi à noter quelque chose au réveil. Mais il y avait des belles choses, en tout cas, dans mes rêves. Mmh. Ouais.
Et vous me disiez justement, jouer, c'est pas composer, c'est quand même la grande différence. C'est-à-dire que dans ce rapport à la partition, on parlait de la fausse note et de la manière dont on appréhende le concert.
Bah, disons que ça se complète, mais composer, c'est pas quelque chose qu'on fait pour avoir une imperfection. On peut pas laisser une imperfection, c'est un travail de gestation. Il faut vraiment atteindre la perfection. L'interprétation, pour moi, c'est juste c'est, voilà, mettre en forme cette musique écrite, lui donner vie. On est des vecteurs, finalement. J'avais un récital hier soir et je me disais encore ça, c'est que c'est vraiment ce partage avec le public, ce contact direct, c'est quelque chose de très humain. Et je dirais que pour le rôle d'un compositeur, c'est plus de savoir, de connaître les musiciens. C'est-à-dire que l'interprète doit connaître son public et le compositeur doit connaître son interprète.
Mmh. Et pourtant, quand vous vous apprêtez à rentrer sur scène, dans quel état vous êtes ?
Oh, bah, ça dépend si c'est sur les ondes de France Musique ou pas. Parce que je faisais un direct l'été dernier sur France Musique au Festival de Montpellier et ça c'est assez stressant. Mais sinon, ça dépend des circonstances, ça dépend vraiment. Souvent, je suis assez décontracté, j'ai pas trop le trac. Ça va, je ne souffre pas de grande angoisse.
Alors bah justement, on va se quitter avec vous, Adrien Boisseau, et une sonate, l'opus 120, que vous avez de Brahms, jouée avec Guillaume Vincent, et c'est à Deauville. C'est vrai, Deauville, ce moment où aussi on se retrouve tous, où tous les jeunes musiciens, pour la plupart, se retrouvent pour faire de la musique de chambre à fond pendant 2 semaines, 3 semaines.
Oui, ça c'est à nouveau l'esprit famille en musique, cette joie d'être ensemble en musique.
Et des moments où vous avez l'impression que cette étincelle de ce qui se passe en concert nous dépasse, nous transcende. Et c'était le cas justement avec ce qu'on va entendre ici avec Guillaume.
Oui, justement, c'était un concert assez particulier, je m'en souviens.
Et pourquoi ?
Pour moi. Oh, pour des raisons personnelles, mais ce jour-là, j'avais envie de tout donner. Et j'avais appris justement de ce concert. C'était les premières fois que je m'étais dit mais il faut tout donner quand on est sur scène. Faut rien laisser derrière.
Un grand merci à vous, Adrien Boisseau.
Merci.
Merci beaucoup. Thank you. En concert, Adrien Boisseau et Guillaume Vincent dans le premier mouvement de la sonate opus 120 numéro 2 de Johannes Brahms au départ pour clarinette. Et avec ici, vous Adrien Boisseau à l'alto, c'était au Festival de Deauville en 2011. Un grand merci à vous. Éric Lancien a réalisé cette émission. Pierre-Henri était à la prise de son et au mixage. Et avec bien sûr à la préparation, Jean-René Bonisson. Passez un très bon dimanche soir à l'écoute de France Musique. On se retrouve la semaine prochaine. Mais pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau. Comme si vous y étiez. Bonsoir Jérémy.